Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes donc maintenant sur le quatrième cours de cette année portant sur l'histoire connectée des empires à l'époque moderne. Et aujourd'hui, parmi les connexions que je vais essayer d'aborder, on va donc faire apparaître enfin la France, car aujourd'hui, on va donc parler bien sûr de l'empire portugais, mais par rapport à la France du XVIe siècle, en passant notamment par une des grandes personnalités de l'histoire intellectuelle française de l'époque. Mais avant de commencer à développer cet aspect-là, je vais passer, même si assez rapidement, en revue la question des empires ibériques du XVIe siècle et comment, en fait, on peut regarder leur histoire dans un contexte plus large, dans lequel donc la France aussi doit jouer un rôle non négligeable. Alors, donc, on avait déjà parlé de ça la semaine dernière, assez en détail. On sait que les deux grands pouvoirs ibériques par rapport à l'outre-mer, notamment le Portugal d'un côté et la Castille de l'autre, avaient développé leurs empires en parallèle au XVe siècle. Pendant assez longtemps, c'était les Portugais qui avaient pris le devant. C'était les Portugais qui avaient donc développé leurs implantations au Maghreb et puis aussi qui ont poussé l'exploration de l'Atlantique pendant donc la plupart du 15e siècle, tandis que les Castillans, même s'ils avaient leur position dans les Canaries et même s'ils étaient rentrés dans un conflit, une espèce de guerre de Corse par rapport aux Portugais pendant le 15e siècle, ils ont en fait fait sauce rattrapage qu'à la fin du XVe siècle, grâce notamment à ce personnage assez compliqué qui est Christophe Colomb. Et puis, donc, pendant le XVIe siècle, il y avait ces deux empires en parallèle. Les Portugais, grâce à la démarcation du traité de Tordesillas, allaient plutôt vers l'est. Ils ont donc contourné le Cap de Bonne-Espérance, ils sont rentrés dans l'océan Indien. Ils ont donc fait la conquête d'une série de places, notamment entre 1510 et 1515. Et de l'autre côté, les Espagnols avaient donc tout d'abord pris position dans les Antilles, dans les Caraïbes, et donc successivement par la suite, sont rentrés sur la terre ferme avec la conquête du Mexique entre 1519 et 1521, et puis en passant par l'Amérique centrale, sont arrivés dans le Pérou. Et donc ça, c'est notamment l'épisode qui concerne les frères Pizarro et leurs alliés et leurs ennemis d'ailleurs, qui va donc créer cette deuxième partie de l'Empire espagnol dans la terre ferme, notamment donc cette partie qui est de l'Amérique du Sud. Voilà donc deux empires en concurrence en quelque sorte, en complémentarité d'une certaine manière. Et puis on sait qu'il y a eu cet événement assez compliqué qui est l'amalgamation des deux grâce à cette situation dynastique à cause de laquelle Philippe II était devenu le roi de Portugal en 1580. Et puis, il est resté, lui et puis son fils et son petit-fils, sont restés comme des monarques à la fois de l'Empire espagnol et de l'Empire portugais pendant 60 ans, jusqu'à 1640 et le moment donc de la restauration de la maison de Bragance. Alors, les Portugais, qui donc étaient ceux qui en premier sont allés en Asie, les Espagnols finalement, ils ont rejoint, donc surtout à cause de leur présence dans les Philippines, mais les Portugais étaient en C'est présent dans l'océan Indien occidental, sur les deux côtes de l'Inde, en Asie du Sud-Est et ainsi de suite. Il savait pas mal de choses sur l'Asie et surtout l'Asie côtière, ça fait pas de doute. Mais ils n'avaient pas trop envie de partager ce savoir. Et on sait par exemple qu'au niveau de la cartographie, il n'y avait pas énormément de cartes qui étaient publiées pendant le 16e siècle et les Portugais n'étaient pas trop enthousiaste pour que tout le monde sache exactement comment le commerce asiatique s'organise. Et c'est à cause de ça que finalement les Anglais et les Néerlandais étaient obligés vers la fin du XVIe siècle d'utiliser presque des systèmes d'espionnage pour mieux comprendre tout ça. Donc, pour revenir sur la question de base, deux empires, deux groupes de personnages, parfois qu'on a mis même face à face ou en parallèle comme des figures qui répondaient les uns aux autres. Par exemple, si vous prenez ces deux livres, un livre portant sur Albuquerque et l'autre livre portant sur Cortés, vous pouvez voir dans les analyses un certain nombre de traits en commun. Même si ces deux historiens ici, Madame Geneviève Bouchon, historienne française, et Matthew Restall, un historien anglais qui depuis très longtemps travaille aux États-Unis, leur approche par rapport à ces deux figures, c'est assez différent. Mais il y a tout de même un contexte en commun et puis aussi quelques éléments dans l'analyse qui semblent partager le même genre de cadre. Alors, pour tout ce qui est donc la réception à un niveau plus large de ces deux empires, qui va au-delà du monde purement ibérique, c'est une question qui a été traitée par plusieurs auteurs. Il y a bien sûr tout cet aspect de savoir s'il faut, par exemple, faire rentrer tout ça dans les études de la Renaissance. José Sebastião da Silva Dias, le grand historien portugais de l'histoire culturelle, même si aujourd'hui il est considéré comme un peu trop traditionnel pour le goût de certains, a analysé un certain nombre de ces matériaux. Et plus récemment, notre ami et collègue Giuseppe Marcocci, historien italien, a donc publié ce livre fort intéressant, The Globe on Paper, sur les histoires du monde pendant la Renaissance et où il se concentre sur les Espagnols, les Portugais, mais aussi et surtout, ce qui est intéressant, c'est les Italiens et le rôle joué par les Italiens, à la fois comme divulgateurs et aussi comme intervenants un peu dans la présentation de ces deux empires à une échelle plus large. Et alors, les Français. Alors, on sait que les Français s'intéressaient à ces deux empires. Ils étaient, bon, bien sûr, pas inclus dans le traité de Tordesillas. J'imagine que c'était quand même quelque chose qui a laissé pas mal d'amertume chez Louis XII et François Ier. Mais néanmoins, les Français ont réagi en essayant de rentrer par des biais un peu compliqués dans ce jeu. Ici, vous voyez une lettre qui est assez rare et assez intéressante, c'est la lettre écrite par des Français qui sont allés en Inde à la fin des années 1520. J'ai analysé cette lettre dans mon livre L'Inde sous les yeux de l'Europe. C'est une lettre dans laquelle ils racontent qu'ils étaient à l'époque tenus prisonniers dans le sultanat de Gujarat en Inde occidentale. Ils ont écrit cette lettre donc au gouverneur des Indes occidentales, des Indes, excusez-moi, orientales, et dans lequel ils ont donc demandé son aide et son secours pour pouvoir sortir de cette prison dans laquelle ils se trouvaient. Alors, comment est-ce qu'on a une lettre comme ça? C'est parce que, comme je vous ai dit, les Français ont en fait essayé maintes fois pendant le XVIe siècle de rentrer dans ce monde de l'expansion qui était partagé entre les Espagnols et les Portugais. Paul Mire de Gonneville, déjà en 1503, 1505, est parti de la Normandie pour essayer de faire un exploit dans l'océan Indien. Mais en fait, en réalité, il est arrivé probablement sur les côtes du Brésil. Puis, dans les années 1520, les Verrazzano, ces explorateurs florentins qui étaient liés avec les Français, ont essayé plusieurs expéditions en Amérique et en Asie. Et on a donc toute une série d'autres expéditions, plus ou moins connues. L'expédition de Jacques Cartier dans le Canada actuel est assez connue, dans la vallée de Saint-Laurent. Et bien sûr, l'autre cas qui est très connu, c'est l'expédition Ville-Gagnon dans la France antarctique. Ça veut dire cette tentative française de s'implanter dans le Brésil dans les années 1550. Et puis aussi, il y a eu cette expédition malheureuse dans la Floride française qui s'est soldée sur un massacre des Français par les Espagnols. Donc, vous voyez, ces tentatives allaient un peu tous azimuts. Il y avait l'expédition des Verrazzano en 1524 qui est allée plus ou moins de la côte de ce que serait aujourd'hui la Caroline jusqu'à New York et un peu plus au nord. Et puis, il y a cette autre expédition de 1529-30 pour aller jusque dans l'Asie du Sud-Est, à Sumatra, qui a laissé quelques traces assez intéressantes. Le discours de la navigation des deux parmentiers, Jean et Raoul, qui étaient donc de Dieppe. Et plus récemment, donc, on a ce livre assez amusant de Michael Ventrow, The Voyage of Thought, car un des navires s'appelait justement La Pensée. Donc, il a essayé d'analyser et l'expédition et ses suites. Donc, vous voyez ici dans l'ensemble ces quelques tentatives et les traces, ce que veut dire que les Français et surtout les Normands, étaient assez concernés par différents voies, différentes voies, différents biais par cette possibilité, même si, en fin de compte, pendant le XVIe siècle, ça n'a pas donné grand-chose. Sauf, bien sûr, quelques éléments culturels assez intéressants. On a ces exemples de ce qu'on appelle la cartographie de Dieppe. Les cartographes de Dieppe ont donc, par exemple, fait ces espèces de map monde en utilisant les sources et le savoir portugais. Vous savez que dans cette carte en particulier, on a une espèce de grande terre, une grande île qui s'appelle Java la Grande, qui est dépeinte dans le sud-est. Et c'est la base de quelques spéculations assez insensées sur la découverte de l'Australie par les Portugais, et ainsi de suite. Mais c'est quand même intéressant de voir que les cartographes de Dieppe, qui n'avaient pas eux-mêmes voyagé, étaient néanmoins capables de avoir une vision un peu de ce monde qui était en train d'être exploré et mise en carte hein, par les Portugais d'une manière ou d'une autre. Alors, revenons donc à Michel de Montaigne, parce que Montaigne, en fin de compte, était assez loin de la Normandie. C'est sûr que si il savait des choses portant sur les Portugais ou les Espagnols autour de 1550, c'était certainement pas par les mêmes biais. Alors, la région de Bordeaux où il habitait une grande partie de sa vie, où il est né, où il est mort. Alors, ça, c'est une région qui a quand même des relations assez fortes avec la péninsule ibérique. Donc, ce n'est pas du tout un mystère. Et c'est une relation qui a à voir justement avec des questions liées avec donc, le commerce. Il y avait des Bordelais qui se sont installés. Par exemple, au Portugal. Et on sait aussi qu'il y avait donc quelques Portugais à Bordeaux et dans les alentours, déjà au XVIe siècle, et un commerce assez florissant entre les deux. Donc, ça aurait pu être un biais pour quelqu'un comme Michel de Montaigne, qu'on sait était assez lié avec le milieu marchand, pour savoir des choses. Mais en fait, la relation, apparemment, ça se passe dans un premier temps par une toute autre voie. Et pour cela, il faut donc penser à l'éducation de Michel de Montaigne. Et notamment à une dynastie des Portugais qui se retrouvait en France au XVIe siècle. Et ça, c'est la dynastie intellectuelle des Gouveia. Alors, ils sont qui ces gens? Il y a donc un premier personnage important qui s'appelle Diogo de Gouveia, qui a vécu donc entre 1471 et 1557. Il était donc originaire de Béja, ça veut dire une ville qui était assez associée avec Dom Manuel avant qu'il devienne roi. Il a fait ses études à Paris et puis il a grimpé assez vite dans l'hiérarchie. Il est devenu recteur de l'Université de Paris en 1507. Dans les années 1520, il est au Collège de Sainte-Barbe à Paris et puis il est à Bordeaux. Il est justement au Collège de Guyenne de Bordeaux. Et en même temps, c'est quelqu'un qui tisse des liens avec le roi portugais Jean III, le successeur et le fils de Dom Manuel. Et on sait que la cour de Jean III était un endroit où il y avait des tendances assez différentes qui se jouaient les uns contre les autres. Et notamment, donc, on sait qu'il y avait des Érasmiens et les gens qui n'étaient pas du tout enthousiastes par rapport à ce genre de tendances. Au 19e siècle, l'historien libéral Alexandre Herculano, qui a écrit un livre classique sur l'histoire de l'Inquisition en Portugal, a donc vu ça un peu en noir et en blanc. Il était vraiment, disons, pour les tendances libérales à cette cour et il voyait une série de personnages assez méchants. Et alors, Diogo de Gouveia, qui était quand même assez anti-érasmien, n'aurait pas figuré dans, disons, les groupes positivement vus de cette cour. Mais on a aussi, par la suite, des études beaucoup plus subtiles, beaucoup plus intéressantes. L'ouvrage classique de Marcel Bataillon sur Erasme et l'Espagne est très connu. Et côté portugais, on a plusieurs textes, y compris ce texte assez bien documenté de Luís de Matos sur les Portugais à l'Université de Paris entre 1500 et 1550, dans lequel on parle justement de ces gens qui naviguaient entre le Portugal et la France à cette époque-là. Alors, Diogo de Gouveia était le premier, mais il n'était certainement pas le dernier. Il a donc son neveu, André de Gouveia, né en 1497 et mort plus jeune que son oncle, qui lui aussi a fait ses études au Collège Sainte-Barbe de Paris, et puis lui aussi est allé au Collège de Guyenne, où il a joué un rôle capital. Il était très important dans ce collège, on verra ça par la suite. Puis il est rentré au Portugal. Et une fois qu'il est rentré au Portugal, il a été accusé d'hérésie par son propre oncle. Il a eu pas mal de difficultés vers les dernières années de sa vie. Et puis, il y a un troisième personnage qui est le frère cadet d'André, Antonio de Gouveia, lui aussi ayant fait ses études à Paris et puis ayant enseigné au collège de Guyane. Alors, pourquoi est-ce que tout cela est important pour faire ce lien? C'est justement parce que Michel de Montaigne, vous voyez ici, a fait ses études, et c'est bien connu, au Collège de Guyenne. Et justement, il a parlé de ça dans un de ses essais, et il a touché à cette question à quelques reprises dans ses écrits. Et voilà donc son chapitre portant sur l'institution des enfants. Je vais tâcher de ne pas trop lire de Montaigne comme ça, parce que c'est quand même un français assez particulier et difficile à contrôler. Alors, si on regarde cette partie du texte, il dit en effet qu'il était donc qu'il avait des maîtres en latin, hein, et en fait, parmi les exercices qu'il était censé suivre, c'était on lui donnait des textes en mauvais latin et il tournait ça en bon latin. Et c'était qui ces gens-là, avec qui il a étudié? Il y avait donc Nicolas Grouchy, et on va revenir sur ce personnage. Il y a Guillaume Guérante et Marc-Antoine Muret, qui est un spécialiste, un grand orateur, et donc George Buchanan, ce grand poète écossais. Alors donc, Buchanan, avec qui apparemment il avait gardé des rapports, parce qu'il dit que par la suite, il l'a vu chez Monsieur le maréchal de Brissac. Buchanan, qui manifestement a laissé une impression assez forte dans l'esprit du jeune Michel de Montaigne. Alors, il dit aussi qu'il avait donc, quand il était jeune et enthousiaste, il avait joué dans les pièces de théâtre, y compris dans les pièces, les tragédies latines de Buchanan, hein, de Guérante et de Muret. Mais là, pour nous faire un portrait plus complet de tout, il dit que celui qui se chargeait de tout ça, c'était qui? C'était Andreas Goveanus, donc André de Gouveia, notre principal, hein, et qui fut sans comparaison le plus grand principal de France. Et donc, il le décrit comme une espèce de maître ouvrier. Donc, manifestement, il se sent beaucoup sa dette envers André de Gouveia. Mais revenons à l'autre personnage, qui est donc Buchanan. Buchanan, qui a vécu entre 1506 et 1582, avec une vie très, très mouvementée. Pour tout dire, donc il a commencé comme catholique, il a été élevé en Écosse, puis il est venu en France, il a passé du temps en France, à Paris, puis à Bordeaux, puis il est allé au Portugal, on va revenir sur son séjour au Portugal. Il est rentré finalement chez lui et donc vers la fin de sa vie, il va devenir protestant. Et pas seulement protestant, il sera donc le maître du roi d'Écosse, Jacques VI, le fils de Marie, la reine d'Écosse, et qui sera aussi donc Jacques Ier d'Angleterre au début du XVIIe siècle, quand les Stuarts ont pris le pouvoir en Angleterre. Alors Buchanan, donc, qui est un personnage assez compliqué, assez... avec une vie, comme je vous ai dit, assez mouvementée, a écrit une espèce de petit texte autobiographique, apparemment un texte pas très fiable, mais dans lequel il dit qu'il naquit dans une ferme de la province écossaise de Lennox, près de Blaine, en l'an de grâce 1506, au début de février, d'une famille plus ancienne que riche. Alors, le père est mort quand il était très jeune. Il avait donc quatre frères et trois filles. Il est attiré par l'Église et il est donc devenu un personnage dans l'Église catholique. Mais c'était le mauvais moment parce que c'était justement le moment quand Henri VIII est en train de prendre ses distances par rapport à l'Église catholique. Il y a donc, comme il dit, une telle confusion, que le même jour et sur le même bûcher, on brûlait des gens des deux parties. C'était une situation instable, ils l'ont dit. Il est allé donc à Paris, mais là encore, il a eu des difficultés parce qu'il a rencontré quelqu'un qui était très mal disposé à son égard, le cardinal Beaton. Et puis, donc, il est parti à Bordeaux. Parce que apparemment, il avait des relations avec André de Gouveia. Donc, il s'installe à Bordeaux, il devient donc enseignant au Collège de Guyenne, et voilà, donc il passe un certain temps là-bas, dans le Et pendant ce temps, il est donc le professeur de Michel de Montaigne. Mais puis, il y a quelque chose qui arrive, c'est-à-dire que dans les années 1540, arrive une lettre du roi de Portugal, Jean III, enjoignant à Gouveia d'amener avec lui des maîtres versés dans les lettres grecques et latines. Et l'idée étant que ces gens-là pouvaient venir et former des gens, plus ou moins à leur goût, au Portugal. Donc, on se déplace. Il y a tout un groupe de gens qui vont. Et alors, donc, il y a quelques Français, mais il y a aussi donc des Portugais dans cette affaire. Mais alors, ça se tourne finalement très vite en vinaigre. On a déjà vu qu'André de Gouveia a été dénoncé par son oncle, mais aussi Buchanan est dénoncé à l'Inquisition. Il est mis en prison. Il passe du temps là-bas. Finalement, il réussit à sortir pour aller en Angleterre et puis pour revenir en France. Mais cette expérience portugaise l'a beaucoup, beaucoup marqué. Alors, on sait que dans un premier temps, il était assez bien disposé à l'égard des Portugais. Parmi ses amis, il y avait donc quelqu'un qu'on appelle parfois Jacques de Tave, mais en fait en portugais c'est Diogo, Diogo de Tave, un humaniste qui a écrit un certain nombre de textes, y compris ce texte que vous voyez là, Commentarius de Rebus in India apud Dium Gestis. Hein? Donc, c'est un texte portant sur le siège et le combat autour de la ville de Diu dans le Gujarat en Inde occidentale. Un combat alors qui a eu lieu en 1546 et c'est le même combat dans lequel l'Ottoman Khaja Safar Salmani Khodavand Khan a trouvé la mort. J'ai parlé de ça il y a quelques semaines quand j'étais en train de parler de l'histoire des armes à feu. Alors, c'est un texte latin où Diogo de Tave fait des éloges du roi Jean III, qui est vu comme plus ou moins le plus grand personnage du monde chrétien, etc. Et apparemment, dans un premier temps, Buchanan était tout à fait prêt à jouer ce jeu. Mais puis, il y a la déception. Et avec la déception vient une espèce de rage et d'une amertume contre les Portugais. Et qu'il va exprimer ça par le biais d'un certain nombre de ses écrits, qui sont des écrits satiriques ou en tout cas très, très critiques, comme celui-ci, qui s'appelle donc In Polyonimo. Donc, c'est un texte adressé au roi de Portugal, Jean III. Et donc là, vous aviez la version originale en latin, et puis ici, la traduction en français. Seul tu es le Lusitanien, seigneur des deux côtés de la mer, de l'Algarve, des Indiens et des Arabes, des Perses, des Guinéens, des Africains, du Congo, Manicongo et Zalofo. Alors ça, c'est une façon de se moquer des titres ronflants du roi de Portugal. Et à vos titres fiers, ne manquez ni manque ni l'Éthiopien grillé par trop de chaleur, ni l'océan perdent toutes les eaux qui baignent les trois continents. Et il n'y a pas de port, pas de marchandises, pas d'île d'où rayonne l'aura d'un petit bénéfice que ne rejoint pas ton titre. Ne devrais-je donc pas, avec la plus grande raison, appeler le propriétaire de tel surnom le grand roi Polynome? Mais, ô célèbre roi, grand par de nombreux noms, si la fureur de la guerre ou la mer agitée fermera le magasin de poivre, elle dévorera ta renommée achetée à un prêt et tu vas soit t'endetter, soit souffrir de faim. Donc, c'est aussi une façon de réutiliser l'insulte proférée par François Ier à l'égard de Don Manuel, le roi épicier. Ici, c'est pas seulement l'épicier, il tient un magasin de poivre. Donc, voilà, pas un très grand roi. Enfin. Et de la même manière, donc, il va continuer à critiquer. C'est le moment au milieu du 16e siècle, quand les Portugais se lancent de plus en plus à l'intérieur du Brésil avec ce système des capitanias qui avait été donc inventé dans les années 1530. Donc, le Brésil est présent dans l'esprit des Portugais et aussi, bien sûr, présent dans l'esprit de Buchanan. Et c'est à cause de ça qu'il écrit un autre poème qui s'appelle Brasilia, un texte encore plus violent que l'autre. L'Afrique est abandonnée, le soldat en détresse demande l'aumône et sans le moindre effort, le poltron mort prend possession des châteaux. Le brut Brésil reçoit des colons impudents et celui qui avant baisa les jeunes garçons baise maintenant les champs. Celui qui prend les terres des soldats les donne ensuite aux sodomites, comme son comportement est injuste, il ne peut pas triompher dans les guerres. Je n'ai pas inventé les gros mots ici. Vous voyez, quique prius pueros foderat, arva fodit. C'est exactement ce qu'il dit dans le texte en latin. Alors, donc, il est ici en train de référer à la fois à deux choses. Il y a l'abandon des forteresses en Afrique occidentale qui se fait dans les années 1540, mais il y a aussi une des obsessions de Buchanan, c'est-à-dire qu'il est convaincu que les Portugais et surtout que les prêtres portugais sont des sodomites. Donc, c'est un de ces thèmes sur lesquels il va revenir sans cesse dans pas mal de ses écrits. Alors, c'est vrai que le milieu qui fréquentait Buchanan, qui est un milieu de prêtres catholiques et aussi de jésuites, n'était pas du tout un milieu où manquait ce genre de critique par rapport à l'Empire. Saint François Xavier lui-même, qui est allé en Inde, on le sait, qui a passé du temps en Inde et en Asie du Sud-Est et au Japon, dans les années 1540, début des années 1550, avant de mourir dans la mer de Chine en 1552. Alors, François Xavier lui-même avait écrit des choses assez critiques à l'égard de l'Empire portugais. Voici une lettre de François Xavier où il dit à un de ses amis restés en Europe, il ne faut surtout pas permettre aux amis d'aller en Inde avec des postes et des nominations de roi de Portugal. Car de ces gens que l'on peut dire très justement, qu'ils soient effacés du livre des vivants, qu'ils ne soient point écrits avec les justes. Psaume 68. Vous pouvez très bien croire en leur vertu, mais pour quelqu'un qui n'est pas touché par la grâce comme les apôtres, il est impossible de rester sur le droit chemin. Car ici, on a tellement l'habitude de faire ce qu'il ne faut pas faire qu'il n'y a pas de remède. Ils prennent tous la voie de rapio rapis. Je suis vraiment étonné de comment ceux qui arrivent ici de là-bas trouvent tant de modes, temps et participe pour cette verbe maudite rapio rapis. Et ceux qui viennent de là-bas avec ces postes ont une si grande hâte qu'ils ne sont jamais prêts à lâcher prise sur ce qu'ils ont entre les mains. Et vous pouvez très bien voir dans quel état leurs âmes vont partir de cette vie à trépasse. Voilà donc celui qui va devenir l'apôtre des Indes portugaises, et vous voyez qu'il est quand même assez critique envers le comportement d'un certain nombre de Portugais qui participent dans cet empire. Alors donc, pour quelqu'un comme Michel de Montaigne, qui n'a jamais mis pied ni en Amérique, ni dans l'Asie portugaise, dont la connaissance sur ces domaines vient soit par une voie livresque, soit par certainement quelques conversations qu'il aurait pu avoir avec des gens qui sont allés eux-mêmes et qui ont eu une expérience directe de ces terres, on voit qu'au milieu du 16e siècle, tout n'était pas en couleur de rose. Il pouvait avoir, et d'ailleurs, c'était assez logique, que ces fréquentations ont produit une vision assez mitigée de ce qu'étaient, en fin de compte, ces empires. Et donc, quand on a compris ça, il y a peut-être une meilleure manière d'apprendre et de voir ce fameux texte qu'on connaît tous, le chapitre sur les cannibales. Vous avez donc toujours en tête ce texte-là, dans lequel il dit « J'ai eu longtemps avec moi un homme qui avait demeuré 10 ou 12 ans dans cet autre monde, qui a été découvert en notre siècle, en l'endroit où Villegagnon prit terre, qu'il surnomma la France Antarctique. Cette découverte d'un pays infini semble de grande considération. Et alors, donc, il est en train de se référer à ce moment dans les années 1550, quand Will Gagnon, chevalier de Malte, avait monté cette expédition sous le patronat de l'amiral Gaspard de Coligny pour aller s'installer justement dans la baie de Guanabara, près de Rio de Janeiro. Et c'est une histoire assez connue. Ce que dit Michel de Montaigne, c'est que cet homme que j'avais était homme simple et grossier, qui est une condition propre à rendre véritable témoignage. Car les fines gens remarquent bien plus curieusement plus de choses, mais ils les glosent. Et pour faire valoir leur interprétation et la persuader, ils ne se peuvent garder d'altérer un peu l'histoire. Ils ne vous représentent jamais les choses pures. Donc, nous avons cet autre personnage qui aurait pu être quelqu'un soit réel, soit une espèce de figure composée de plusieurs personnes qui avaient justement cette expérience du Brésil, quelqu'un plus ou moins, disons, dans le genre Jean de Léry ou quelqu'un comme ça. Mais en tout cas, c'est à partir de ce monsieur-là que Michel de Montaigne a pris connaissance des habitudes des gens, des indigènes qui étaient là et qui avaient donc lutté et eu ces rapports assez compliqués avec les Français et avec les Portugais d'ailleurs. Donc, ces gens qui étaient plus ou moins les toupies autour de cette région-là. Et on sait que, en racontant cette histoire sur les cannibales, Michel de Montaigne va opérer une inversion, hein, parce que, en fait, son idée, et c'est une idée assez géniale, c'est finalement de relativiser, de dire, bon, en fin de compte, qui est le civilisé et qui est le sauvage? Est-ce que c'est vrai que les Français ou les Européens en général sont des civilisés et ces autres sont des sauvages, ou est-ce que c'est plutôt le contraire? Il faut quand même pas penser que parce que les uns ont des culottes et les autres ont fesses nues, que les uns sont civilisés et les autres non. Et on sait qu'il y a eu beaucoup de débats autour de ça jusqu'à nos jours. À droite, vous aviez donc ces deux essais assez intéressant de quelqu'un qui a été d'ailleurs, semble-t-il, très impressionné par cette lecture que faisait Michel de Montaigne des cultures indigènes de l'Amérique, c'est Claude Lévi-Strauss, qui a donc prononcé à beaucoup de décennies d'écart deux conférences sur Montaigne, qu'on a mis ensemble pour ce livre de Montaigne à Montaigne. Et puis, Franck Lestrangan a aussi publié Le Brésil de Montaigne. Hein? Il y a aussi, bien sûr, beaucoup, beaucoup, beaucoup vraiment d'autres textes portant sur les cannibales et pourquoi et comment Montaigne a abordé ce sujet. Quant à moi, je voudrais juste souligner que, à part les autres possibilités et les autres influences possibles sur Montaigne, ne faut pas oublier qu'il était lié avec ce milieu jésuite, il était lié avec les gens comme Buchanan, il était lié avec les gens justement comme les Gouveia, qui étaient assez critiques envers l'expérience impériale et coloniale portugaise. Mais on sait, et j'ai déjà mentionné ça, qu'il y avait donc l'aspect livresque du savoir de Montaigne. On sait que dans sa bibliothèque, dans son château de Montaigne, il y avait pas mal de livres et les savants, depuis un certain temps, se sont efforcés à établir une liste plus ou moins convaincante de ces livres. Liste n'est pas tout à fait simple parce qu'il y a quand même un certain nombre de faux, c'est-à-dire des livres portant une espèce d'ex-libris de Montaigne, mais semble ne pas avoir vraiment fait partie de sa bibliothèque. Mais on peut maintenant quand même avoir une idée relativement réaliste de ce que aurait été sa lecture les ouvrages dans sa bibliothèque. Donc, par exemple, il semble tout à fait évident qu'il aurait, par exemple, lu ses livres publiés en 1558 d'André Thévet, Les singularités de la France Antarctique, y compris parce que vous voyez qu'André Thévet se déclare natif d'Angoulême, donc c'est vraiment la porte à côté pour Montaigne. Et il aurait aussi certainement lu le texte espagnol le plus connu, le plus répandu parmi ces chroniques du XVIe siècle, qui est la Historia General de las Indias de Francisco López de Gomara, hein, qui était donc assez connu et lu jusque dans la cour ottomane. Hein, donc, ça a vraiment beaucoup circulé. Et il aurait aussi certainement lu des choses portant sur les Portugais. Hein. Et ça, c'est un peu plus difficile à cerner. Hein. Et pour faire ça, il faut en fait regarder, parce qu'il y a différents endroits où il parle de Portugais, et surtout les Portugais en Asie. J'ai pris trois exemples, soit trois petits exemples, hein, dans le chapitre 24, où il raconte que, bon, il dit, et au quartier par où les Portugais écornent les Indes, ils trouvèrent des États avec cette loi universelle et inviolable, où tout ennemi vaincu par le roi en présence ou par son lieutenant est hors de composition de rançon et de merci. Donc, deuxième exemple, il parle d'Albuquerque, vice-roi en Inde, et un extrême péril de fortune de mer qui prit sur ses épaules à un jeune garçon pour cette seule fin qu'en la société de leur péril, son innocence lui servit de garant et de recommandation envers la faveur divine pour le mettre à bord. Donc, vous voyez, ce sont des petites pistes que pouvaient nous amener à voir les autres textes écrits sur les Portugais en Inde pour voir où il a en fait trouvé ces anecdotes. Les Portugais, troisième chose, pris dans la mer des Indes, certains Turcs prisonniers, lesquels, impatients de leur captivité, se résolurent et leur succéda, frottant des clous de navire l'un à l'autre et faisant tomber une étincelle de feu dans les casques de poudre, d'embraser et mettre en cendres, eux, leurs maîtres et les vaisseaux. Donc, vous voyez des pistes, des petits tuyaux. Pour nous donner des idées possibles sur la lecture de Michel de Montaigne. Alors, il aurait lu quoi? Bien sûr, il faut penser qu'il y a possibilité, certainement, qu'il aurait lu Jean de Baruch, le grand chroniqueur officiel qui a commencé à publier ses Décades dans les années 1550, et ses textes ont aussi été traduits en italien. Donc, il y a les deux possibilités, soit le texte portugais, soit la traduction italienne qui aurait pu faire partie de la lecture de Michel de Montaigne. Parce que, bon, je vous ai dit qu'on a une liste de sa bibliothèque, mais bien sûr, ce n'est pas complète. Il y aurait eu certainement des livres qu'on n'a pas pu tracer. Il y a une autre possibilité, un autre humaniste assez connu, même connu en France, qui est Damien de Gouges, qui est devenu un autre chroniqueur, qui a écrit donc ce Chronicle de Serenissimo Signor Rei Dom Emmanuel. Et donc, ça, c'est une espèce de chronique englobante où on parle pas seulement de l'Asie, mais de l'Empire tout entier. Et Damien de Gouges, en fait, il a recyclé un certain nombre d'éléments venant d'autres chroniqueurs comme Baruch ou autres. Il a fait ses sélections et il a fait un peu de couper-coller pour mettre ses matériaux, justement, donc, dans sa chronique à lui. Mais en fait, il nous semble que la source la plus importante, fin de compte, Michel de Montaigne, c'était ce texte-là. Donc, vous voyez, c'est le texte de Rebus Emmanuelis Regis Lusitaniae, et c'est écrit par l'évêque de Silves, dans l'Algarve, et qui s'appelle donc Geronimo Osorio. C'est un texte qui a été publié tout d'abord en latin et par la suite qui a été aussi traduit en français, comme vous voyez ici à droite. Et comment est-ce qu'on sait ça? Parce que, ah, dans ce cas, en tout cas, avec ce livre, on sait que le texte de 1574 fait partie de la collection de Montaigne. Et il y a un exemplaire aujourd'hui dans la Bibliothèque nationale. C'est justement cet exemplaire-là que vous voyez à gauche, la collection païen, et qui porte donc la signature de Montaigne au bas du titre. Donc, on sait bel et bien qu'il s'appartenait donc à sa bibliothèque. Alors, c'est pas seulement ça. C'est aussi que il y a une référence assez explicite dans le texte de Montaigne portant sur Osorio. Alors, ça nous amène à un autre aspect de Montaigne. On a vu que Montaigne donc était assez sceptique et relativiste par rapport aux questions de la conquête, qui était le civilisé et qui était le sauvage dans l'affaire. Mais on sait qu'il y avait aussi un autre aspect de Montaigne qui a fait couler beaucoup d'encre, et c'est son rapport avec les Juifs. Il y a des gens qui pensent qu'il était très proche à la culture juive. Il y a des sceptiques aussi qui pensent qu'il n'était pas si proche que ça. On sait qu'il y avait de l'ascendance juive quelque part dans sa famille. Ça ne fait pas de doute. Mais est-ce qu'il était vraiment si près que ça? En tout cas, il y a cette partie dans laquelle, par exemple, il critique assez vertement les rois de Castille et les rois de Portugal pour leur traitement des Juifs à la fin du XVe siècle. Vous voyez, les rois de Castille ayant banni de leur terre les Juifs, le roi Jean de Portugal leur vendit à 8 écus de tête la retraite aux siennes pour un certain temps, à condition qu'il lui venu, il aurait à les vider, il lui promettait fournir des vassaux à les trajecter en Afrique. Donc, on commence avec Jean II dans les années 14, au début des années 1490. Mais puis, il y a Emmanuel, son successeur, qui leur ordonna de sortir de ces pays, assignant 3 ports à leur passage. Donc là, il raconte comment en fait ils ont été malmenés, maltraités. Il parle de l'inhumanité de ces rois. Il dit, là, on revient à l'aspect important pour nous, qu'il dit, quelle est la source? Dit l'évêque Osorius, non méprisable historien latin de nos siècles. Donc, vous voyez que c'est pris du texte d'Osorio. Ça, c'est assez clair, enfin. Voilà. Donc, il le dit et il condamne de façon assez claire, la façon de traiter ces juifs, comment, donc, aussi le comportement tout à fait injuste à la fois de Don Juan et de Don Manuel, hein, et ayant promis ces 3 ports, et il retranchera 2 des ports qu'il leur avait promis, hein, afin que la longueur et l'incommodité du trajet en réduisent aucun. Hein, et donc, il continue aussi à parler de comment on a arraché des mains des pères et des mères tous les enfants au-dessous de 15 ans, la conversion forcée, etc., à l'époque de Don Manuel, et il décrit ça comme un horrible spectacle. Ça fait partie de ses textes, d'ailleurs, condamnant le comportement des rois catholiques et des rois de Portugal. Quand on trouve ça dans un texte comme La Consolation de la Tribulation d'Israël, écrit par un écrivain juif, Samuel Huske, et publié en Italie au milieu du XVIe siècle, c'est moins surprenant, car bien sûr, Husqvarna était lui-même juif, et sa patronne était Donna Grazia Nasi, et bon, donc c'est un autre milieu. Mais ici, vous aviez quelqu'un, humaniste, qui est aussi un homme politique non négligeable, qui connaît les rois de France, et il se livre à ce genre de réflexion. C'est intéressant. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est les sources. Parce que ça vient manifestement d'un texte qu'il a lu et qu'il cite. Il a lu quoi d'autre? Il a manifestement aussi lu d'autres chroniques portugaises. J'ai parlé de Jean de Barge. Mais l'autre chronique qu'on avait et qui a eu pas mal de succès, il faut le dire, même avant Barge, c'était une chronique non officielle de Fernando Lopes de Castaneda, l'histoire de la découverte et conquête de l'Inde par les Portugais, qui a été donc traduit, vous voyez ici, en espagnol. Et d'ailleurs, et ça c'est curieux, il est traduit en italien et traduit en français. Par qui? Par Nicolas Grouchy. Nicolas de Grouchy. Donc, justement, qui faisait partie de la mouvance du Collège de Guyenne, qui était un des maîtres de Michel de Montaigne. Et donc, on voit ici que Grouchy avait donc publié ce texte. Donc, peut-être, en fin de compte, c'était cette version-là qui était aussi disponible. Pour la bibliothèque de Montaigne, mais en tout cas, on sait que il avait l'exemplaire en espagnol. Hein. Donc, vous voyez ici hein, le texte 1554, et encore une fois, si vous regardez vers le bas, la signature de Montaigne est au bas du livre. Et donc, encore une fois, ça fait partie de la bibliothèque bel et bien de Montaigne. Celui-là, cet exemplaire apparemment se retrouvait dans une bibliothèque privée à Bordeaux à l'époque quand on a fait cette étude portant sur la bibliothèque de Montaigne. Alors, donc, vous voyez l'éventail des possibilités et on n'a pas terminé la recherche. Il y aurait encore des choses sûrement à rechercher si on commence à regarder vraiment d'assez près. Je vais vous donner quelques autres exemples. Il y a un moment donné, et c'est aussi pour faire le lien avec les autres réflexions de la semaine dernière, à un moment donné, Michel de Montaigne parle de Malacca. Et ça, c'est assez curieux. Hein? Il parle de cette ville de Malacca que les Portugais avaient prise en 1511. On le sait que les Portugais ont pris cette ville avec l'aide des marchands de Tamoul. Et j'ai parlé justement la semaine dernière de ces rapports qu'ils avaient avec les marchands de Tamoul, car ces marchands, donc, ont été déçus par les Portugais, vous voyez. Et donc, on a eu cette lettre de plainte sur laquelle j'ai parlé. Mais parmi les gens qui étaient le plus déçus, il y avait le plus grand marchand de l'époque de la conquête. Donc, il y avait Nina Souriadeva, sur lequel j'ai parlé. Il y avait quelqu'un d'autre qui s'appelait Nina Chatu, dans le texte portugais, mais Setu Nayenar serait son vrai nom. Et ce Nina Chatu, donc, était quelqu'un qui a décidé de, finalement, qu'il ne pouvait pas supporter les Portugais, et donc il a décidé de prendre les choses dans ses propres mains, et il a donc pris une solution assez extrême. Et cette solution extrême, on verra, c'est en fin de compte de se suicider. Alors donc, ça c'est un cas assez connu, assez célèbre, c'est mentionné dans plusieurs lettres, c'est aussi mentionné dans plusieurs textes de l'époque. Hein? Et voyons donc ce que fait Michel de Montaigne avec cette histoire. Parce que c'est quand même un peu inattendu de trouver une référence à un marchand tamoul dans les essais de Montaigne. Et voilà, donc c'est le chapitre Coutume de l'île de Céa, où il dit: Nina Chatuen, seigneur endois, ayant senti le premier vent de la délibération du vice-roi portugais de le déposséder sans aucune cause apparente, hein, prend à part soi cette résolution. Donc il fait dresser un bûcher avec des bois aromatiques, etc. Et ayant fait un discours, il va se jeter dans ce bûcher et il va se brûler. Donc, il meurt de cette manière-là. Alors, ça, c'est intéressant parce que on voit que la source, c'est Jean de Barge. Donc, est-ce qu'il a lu Jean de Barge dans la version originale? Est-ce qu'il a vu ça par un autre texte interposé? On n'est pas sûr, mais de toute manière, ce qui est intéressant, c'est que justement, il a pu faire usage de ce texte, encore une fois, pour parler des Portugais et leur manière de procéder. Ici, vous aviez la lettre dont je vous ai parlé la semaine dernière, oui, avec les signatures en tamoul sur la droite, et c'est une lettre dans laquelle donc, ces marchands vont se plaindre justement de l'injustice et le comportement des Portugais. On sait que Montaigne a continué à collectionner des textes même plus tardifs. Il avait par exemple ces deux récits de voyage de Gaspar Balbi et aussi de Geronimo de Franchi Conestaggio, donc des textes italiens qui faisaient aussi partie de sa bibliothèque portant sur les empires ibériques. Et d'ailleurs, il parle aussi d'autres choses qui ont à voir avec l'empire portugais, notamment. Il a une discussion assez intéressante sur cette fameuse bataille de Alcácer Quibir de 1578, dans laquelle le roi de Portugal, Sébastien, va finalement essayer de monter une croisade contre les rois musulmans du Maghreb. Donc, il meurt et ça devient donc toute une affaire pour les Portugais. C'est un épisode assez connu, mais l'aspect que moi je trouve intéressant, c'est que si vous regardez le texte de Montaigne, celui qui est le vrai héros de l'affaire, ce n'est pas du tout Sébastien, mais le roi de Fès, Moulay Malouk, parce que c'est lui hein, qui se trouva grièvement malade dès lors que les Portugais entrèrent à main armée dans son état. Hein. Et malgré le fait qu'il est tellement malade, il va donc insister pour participer dans cette bataille, tenant son corps couché, mais son entendement et son courage debout et ferme. Il va finalement donc pousser jusqu'à la limite de ses forces pour assurer la défaite des Portugais et donc il va à ce moment-là, mourir. On dirait un héros venant de l'Empire romain, hein, donc dans la façon dont il est présenté. Donc, c'est pas du tout le méchant musulman, le méchant maure contre le bon et vertueux chrétien et portugais. C'est plutôt le contraire. Hein. Vous voyez que dans ce passage assez développé, hein, il parle assez longuement de comment finalement il est mort et quand il est mort il expira tenant le doigt contre sa bouche close signe ordinaire de faire silence qui vécut donc si longtemps ici avant la mort qui mourut donc si debout. Alors c'est qui ce héros? C'est pas le roi portugais, c'est le roi musulmans du Maghreb. Donc, vous voyez que, encore une fois, il faut imaginer que la façon dont Michel de Montaigne a pu aborder ces matériaux, c'est à partir des textes en italien et en portugais, mais il a fait usage de ça à sa manière. Et donc, en fin de compte, si on regarde sa façon d'aborder les différents empires, on dirait presque, parfois, il valorise plus, par exemple, les rois comme le sultan de Fès ou le sultan ottoman. Ces gens-là, il dit souvent qu'ils ont plus de sens de comment conduire une grande entreprise, hein, ces personnages. Alors, on peut dire à la limite qu'il y avait l'alliance entre les Français et les Ottomans, et peut-être ça aurait aussi pu ouvrir la possibilité de cette espèce de réflexion assez positive à l'égard des Ottomans. Mais si on pense par exemple à ce genre de passage où il dit les princes de la race ottomane, la première race du monde en fortune guerrière, ont chaudement embrassé cette opinion, etc. Donc, il y a que des louanges pour Selim et pour Soliman. Et puis, par contre, ce qu'il dit, c'est quoi? Il cherche autres adhérents que moi, ceux qui veulent nombrer entre les belliqueux et magnanimes conquérants, les rois de Castille de Portugal, de ceux qu'à 1200 lieues de leur oisive demeure, par l'escorte de leurs facteurs, ils se sont rendus maîtres des Indes d'une et d'autre part, lesquels, c'est à savoir s'ils auraient seulement le courage d'aller jouir en présence. Voilà. Donc, ce monsieur, habitant dans les alentours de Bordeaux, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, surtout, avec sa bibliothèque, avec ses connaissances, a su construire une certaine version, une certaine vision de ces empires ibériques qui n'étaient certainement pas sans rapport, plutôt le contraire, avec la production des Ibériques eux-mêmes. Ils puisaient dans leurs écrits, mais ils étaient aussi assez habiles pour détourner ces écrits et faire d'eux un plat qui était en fin de compte cuisiné à une toute autre sauce. C'est en fin de compte pour cela que dans le musée d'Aquitaine, maintenant qu'on a une exposition permanente portant sur les empires de l'Atlantique, la traite, etc., je pense que il n'est pas du tout difficile de faire le lien entre ces réflexions-là et justement l'autre personnage qui est associé d'une façon ou d'une autre avec ce musée, qui est donc le ex-maire, le maire de Naguère de Bordeaux, notamment Michel de Montaigne. Je vous remercie de votre attention.